RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
C'est parti pour les GG, bien le bonjour à tous, content de vous retrouver pour discuter, pour débattre, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à midi, vous avez le 32-16 à votre disposition pour intervenir à tout moment, bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
À ses côtés aujourd'hui, Joël Dagosséry, la coach de vie, bonjour,
bonjour
ma chère Joël. Nous sommes avec Jean-Loup Bonamy, le normalien, le professeur de philosophie, bonjour mon cher Jean-Loup.
Bonjour à tous.
Et puis l'avocat Charles Consigny est des nôtres aussi aujourd'hui, bonjour Charles.
Bonjour à tous.
On a des vacances à vous faire gagner, hein, tout au long de la semaine, des vacances d'une valeur de 2000 euros dans les clubs hôtels Bellambra. C'est le tout compris premium. Vous choisissez la mer ou la montagne. Vous envoyez vacances par SMS au 732-16, vacances par SMS au 732-16. Le séjour d'une semaine en famille, il est pour vous. Le tirage au sort du gagnant tout à l'heure à 11h20. Je vous le rappellerai bien évidemment tout au long des 3 heures de l'émission. Beaucoup de sujets que l'on va évoquer avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'on doit stopper l'immigration pendant 3 ans? C'est une proposition de Gérald Darmanin. Glucksmann ou Mélenchon, qui est le mieux placé pour faire gagner la gauche? Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, infaisable ou faisable? Vous avez déjà une opinion, une envie de réagir, c'est le 32-16. On va commencer par cette situation que l'on voit tous se dérouler sous nos yeux, ce qui se passe aux États-Unis. Vous savez, c'est cette police voulue par Donald Trump, ICE, Immigration Customs Enforcement, c'est la force qui est chargée de lutter contre l'immigration clandestine. 3000 agents qui sont déployés à Minneapolis et encore un mort.
Oui, il s'appelle Alex Pretty, 37 ans, c'est un infirmier. Alors, il a été présenté au début par l'administration Trump comme étant un terrorisme national. Bon, on s'aperçoit en fait que c'est un infirmier en soins intensifs qui se trouvait un peu par hasard au cœur d'une opération fédérale menée par cette police anti-immigration mise en place par Donald Trump. Selon plusieurs témoins, il observait une scène d'interpellation un peu violente. Il filmait cette scène avec son téléphone. Il aurait chercher à s'interposer verbalement sans violence pour protéger notamment une femme. Voilà ce qui dit, enfin ce que disent les témoins qui ont vu la scène. Selon les autorités, notamment le ministère américain de la Sécurité intérieure, en fait, au moment de son interpellation, l'infirmier aurait sorti un pistolet semi-automatique et aurait à ce moment-là voulu résister à son interpellation, et donc un agent, craignant pour sa vie, lui aurait tiré dessus une dizaine de balles. Bon, si on regarde les images qui circulent sur les réseaux sociaux, on voit que la scène est quand même assez confuse et a priori, on ne voit pas l'homme brandir un pistolet. Alors, est-ce son téléphone, un pistolet? L'enquête le dira. Si elle a lieu, parce qu'il y a beaucoup de pression, forcément, l'administration Trump s'est tout de suite portée sur ce sujet en disant, mais non, il n'y a pas de problème, etc. Ce n'est pas une bavure. On verra s'il y a une enquête indépendante. En tout cas, deux anciens présidents ont réagi, Barack Obama et Bill Clinton, pour dire aux Américains qu'il était temps de défendre des valeurs fondamentales, celles des États-Unis, qui étaient menacées par ce meurtre et par ces images.
Est-ce que c'est l'affaire de trop pour l'administration de Donald Trump, un tournant pour le président américain? 32-16 pour en parler avec les juges, avec les grandes gueules, Jean-Loup.
Non, mais moi, je suis un peu surpris. Alors, bien sûr, la mort de cet homme est tout à fait triste et regrettable. Et ça aurait été beaucoup mieux que ça ne se produise pas. Mais je rappelle que quand Barack Obama ou Bill Clinton disent qu'ils veulent défendre les valeurs des États-Unis, j'ai un peu du mal à comprendre. Est-ce que les valeurs des États-Unis, ça se trouvait illégalement sur le sol des États-Unis? Parce qu'en fait, ce que fait cette police anti-immigration, qui existe depuis fort longtemps, hein, qui n'est pas du tout une invention de Donald Trump, qui sous sa forme actuelle d'ailleurs existe depuis 2003 et qui existait déjà avant sous d'autres formes. D'ailleurs, Barack Obama lui-même a énormément expulsé. Il a énormément expulsé de Mexicains clandestins. En fait, Donald Trump ne fait qu'appliquer les lois qui disent que Il y a deux types d'immigration. Il y a l'immigration légale, où tu as le droit d'être sur le territoire des États-Unis, et il y a l'immigration illégale, où tu n'as pas le droit. Et donc, si tu n'as pas le droit, tu dois être expulsé. Tu ne dois pas être enfermé dans un camp, tu ne dois pas être tué, tu dois juste rentrer dans ton pays et ne plus te trouver sur le territoire des États-Unis.
Alex Preti n'était pas un immigré.
Ah bah, d'accord. Mais parce que il y a tout un climat de violence et d'agitation qui est entretenu par des groupuscules militants et qui aboutit à ce genre de drame. Parce qu'il y a des groupuscules militants sur place. Et je fais une petite remarque, c'est que, tu sais, il y a 5 ans, on nous avait beaucoup parlé du mouvement Black Lives Matter et de la mort tragique de George Floyd. Moi, ce que je constate, c'est que dans ces groupes pro-immigration clandestine, il n'y a que des Blancs. Et comme je l'ai lu, il y a un Afro-Américain, donc un Noir Américain sur Twitter qui l'a tweeté avec humour, ne comptez pas sur des citoyens américains noirs pour aller dehors par moins 10 degrés défendre des violeurs et des trafiquants de drogue vénézuéliens clandestins. Voilà, il y a que tes petits blancs diplômés de l'universitaire d'extrême gauche qui participent à ces milices qui sèment un état d'agitation et de confusion.
Il était simplement en train de protester, c'est un infirmier qui travaille dans un hôpital pour soigner les... Il est contre.
Alors juste une précision factuelle. Là, en fait, on vient dans le cadre de ces politiques d'expulsion de mettre la main sur plusieurs centaines d'assassins, de violeurs, de trafiquants de drogue, mexicains, nicaraguayens, vénézuéliens, qui étaient recherchés par la police, qui étaient des clandestins, et on vient de les arrêter grâce à cette politique. Donc, si vous voulez que les rues des États-Unis soient emplies de trafiquants de drogue mexicains ou salvadoriens, c'est votre choix. Là, en France, on vient de parler d'une femme de 90 ans qui a été violée par un migrant clandestin sous EQTF.
Et droguée.
Si vous voulez que des femmes américaines, blanches, noires, hispaniques, peu importe, soient violées par des trafiquants de drogue salvadoriens, bah, allez-y.
Ok, donc je serais tout à fait d'accord pour que, dans le cadre de ce qui est arrivé en France, par exemple, si on appliquait la politique de Trump, que soit tué donc un citoyen français qui filme, par exemple, l'arrestation d'un.
Mais c'est pas Trump qui l'a tué, en fait.
D'accord. Moi, je te parle de ça, de la police. Donc, tu serais d'accord pour que un citoyen français, infirmier engagé auprès notamment des anciens combattants, soit tué parce qu'en fait, il filme Hussein. Tu serais d'accord aussi C'est pas le seul, hein. Avant ça, il y a une femme qui a été tuée dans sa voiture. Voilà, exactement. Donc, tu serais d'accord pour ça.
Alors,
tu serais d'accord aussi pour que des citoyens, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des citoyens américains, notamment entre les deux cas, les deux meurtres, il y a un citoyen américain d'origine asiatique qui a été sorti de chez lui quasiment tout nu. Donc, toi, tu serais d'accord, en fait, pour qu'il y ait ce type de comportement, parce qu'il faut expulser des clandestins. La deuxième chose, c'est que Barack Obama.
Tu as posé une question.
La deuxième chose. Je termine et je te laisserai répondre. La deuxième chose, c'est que Barack Obama, effectivement, a expulsé énormément de clandestins. Par contre, nous n'avons pas assisté à ce genre de scène digne de milices.
Ça fait deux morts dans la même ville. Hein. C'est
donc
pour ça qu'il y a une réaction à Minneapolis.
On peut très bien avoir une politique ferme. Laissez croire aux Français qu'une politique ferme sur l'immigration, des expulsions, ça vaut, en fait, le fait de tuer des citoyens français. Franchement,
c'est la méthode
je vais répondre à la question que m'a posée Joël, qui est une excellente question. D'ailleurs, comme je l'ai dit, j'ai d'ailleurs commencé par là, je déplore la mort de citoyens américains. Si ça devait se produire en France, imaginons que demain ça se produise en France. Je pense qu'il faudrait une enquête impartiale pour déterminer ce qui s'est vraiment passé.
Sauf qu'elles n'ont pas lieu.
Si ensuite on moi je suis pour qu'il y ait une enquête. Ouais. Si on détermine l'agent.
Je précise que Donald Trump, l'administration Trump, a un peu changé de ton et que dit effectivement il faut une enquête.
Si on détermine que l'agent en cause a commis une faute, cet agent doit être sanctionné et lourdement sanctionné. C'est ça ma réponse. Donc je ne suis pas pour qu'on tue des gens, ni des migrants, ni des citoyens. Donc je pense que si l'agent a commis une faute et qu'on l'établit après enquête, il doit être sanctionné, lourdement sanctionné, et que ça ne doit pas remettre en cause cette politique d'expulsion qui était déjà, tu l'as dit, celle de Barack Obama. C'est juste qu'elle est un peu plus mise en scène médiatiquement.
Charles.
Moi, je trouve que c'est quand même très désagréable, cette espèce de milice qu'on voit se faire procéder à des chasses à l'homme sur le territoire américain. Je pense qu'on peut lutter contre l'immigration illégale sans passer par ce genre de méthode. Je pense pas qu'il faille interpeller des gens qui se trouvent avec leurs enfants, les séparer de leurs enfants, les brutaliser, les courser dans les rues et ni a fortiori évidemment leur tirer dessus. Je trouve que tout ça est extrêmement excessif. Je pense en plus qu'il y a une part là-dedans de communication et de volonté de faire un peu de spectacle. Et quand on voit le look qui a été assez remarqué sur les réseaux sociaux du patron de ce service,
Monsieur Bovino.
Monsieur Bovino, qui quand même arbore une certaine esthétique
redingote
à base de redingote kaki et de cheveux rasés sur les côtés. Bon, je veux pas lui faire de procès d'intention, mais enfin c'est quand même assez spécial. Donc autant moi je pense que il ne faut pas tomber non plus dans le piège d'une certaine gauche au sens large qui essaye de discréditer toute politique de contrôle de l'immigration en s'appuyant sur ces images très choquantes et qui fait de la récupération avec ça. Je pense qu'on peut avoir le contrôle des frontières, et là je parle notamment de la France, je pense qu'on peut contrôler notre immigration, mais que ça ne doit pas se faire comme ça. Par exemple, il y a quelque chose qui me paraît simple. J'ai lu là ce week-end un préfet, je ne sais plus quel département, qui disait que 50% de la délinquance dans son département était le fait d'étrangers, de gens de nationalité étrangère. Bon bah déjà, si toute personne qui commet un délit ou un crime est immédiatement expulsée vers son pays d'origine, déjà vous traitez un peu mieux le problème. Mais je pense pas qu'on ait besoin et ni qu'on ait envie d'ailleurs d'aller dans ces méthodes qui me paraissent totalement disproportionné.
Admettons que le Rassemblement National arrive au pouvoir ici en France, est-ce qu'on aura le même type de police anti-immigration, quoi?
Je ne sais pas, je ne
sais pas. Parce que l'immigration, c'est leur cheval de bataille. Est-ce qu'on aurait le même type, peut-être, d'agents pour aller chercher les immigrés clandestins? Est-ce que ça pourrait avoir lieu chez nous, quoi?
Je pense que procéder à des chasses à l'homme, c'est mauvais. En revanche, quelqu'un qui est interpellé pour une autre raison ou qui, voilà, dont tout à coup on s'aperçoit, mais dans un climat à peu près serein, qui est en situation irrégulière et que il doit retourner dans son pays, là, il faut le faire, mais pas de cette manière-là.
Aux États-Unis, il y a aussi le problème de la circulation des armes à feu. C'est pour ça qu'il faut arrêter toujours de vouloir transposer ce qui se passe là-bas à ce qui se passe chez nous.
Oui, c'est que tout le monde est
très tendu quand les policiers interpellent ou interviennent. Ils savent qu'une fois sur deux, ils vont tomber sur quelqu'un qui est armé et qui a le droit d'être armé. Et d'ailleurs, cet infirmier, visiblement, s'il avait une arme, s'il faudra vérifier, mais il avait le droit de porter une arme. Mais c'est vrai que ça crée une tension dès le départ dans une interpellation ou face à des manifestants, quand tu sais que potentiellement, ils ont une arme semi-automatique rangée dans
Fred qui va intervenir. Il est ingénieur du son. Il nous appelle de Paris.
Mais
bonjour Fred.
Les policiers eux-mêmes n'étaient pas, avaient un taser en plus de leur pistolet, par exemple.
Ils ont un taser et un pistolet. Hein. Qu'est-ce que vous en dites, Fred, de ce qui se passe là-bas aux États-Unis?
Oui, bonjour. Moi, je trouve que c'est dramatique, quoi qu'il arrive. C'est dramatique. Après, bon, je pense qu'il ne faut pas trop changer de sujet ou dévier sur le débat. Là, on nous dit évidemment qu'il faut lutter contre l'immigration illégale et tout. Bon, ça, voilà, chacun mène sa politique comme il veut. Maintenant, c'est la méthode qui est extrêmement contestable. C'est la méthode qu'ils utilisent pour enrôler ces gens. Donc apparemment, on leur promet 50 000 dollars, on leur promet d'éponger leur dette étudiante, etc. Donc,
4 semaines de formation, je crois, aussi, c'est ça.
Voilà, donc ça ouvre la porte un peu à tous les gens qui ont un peu besoin d'argent et qui ne sont pas forcément formés. Là, cet infirmier qui a été assassiné, il n'y a pas d'autre terme, parce que effectivement, il avait une arme, mais bon, les armes, on a le droit d'en acheter.
Non, on n'est pas sûr qu'il avait une arme, hein.
Non, si, il y a des images qui sont très claires. Il avait une arme dans son holster, il l'a jamais sorti.
Oui. Il l'a pas sorti, sans doute.
Il
avait une arme, mais il ne l'avait pas sorti, il avait son portable à la main.
Voilà, et c'est un des membres de cette milice qui a sorti l'arme, et après qu'ils aient sorti l'arme de cette personne, ils l'ont tiré dessus. Donc, il y a ça, il y a cette dame qui a été tuée encore il y a quelques semaines, de 3 balles dans la tête. Et il y a aussi un troisième cas dont on ne parle pas parce qu'il n'y avait pas d'image. Donc moi, je trouve que la méthode est extrêmement problématique. Il y a des gens en France, même sur votre plateau, qui défendent ce genre de choses. On entend des gens qui parlent de rafles. Bon, moi, je ne comprends plus du tout.
Pas sur notre plateau.
Pas sur votre plateau, mais sur des chaînes.
Nous, on assume que les propos qui sont tenus chez nous. Pas ceux dans les autres.
On n'assume pas les propos des autres.
Oui, bien sûr, non, mais bien sûr, mais bon, par exemple, quelqu'un.
Alors, vous dites que ça entraîne. Vous dites que.
Lui, il aime beaucoup Donald Trump. Moi, je comprends pas.
Ah bah moi j'ai dit que si l'agent, s'il est établi que l'agent avait commis une faute, il devait être lourdement sanctionné. J'ai dit qu'il fallait une enquête impartiale et des sanctions s'il est établi qu'il a commis une faute.
Fred, si vous êtes devant les GG, devant RMC Story, on a retrouvé, l'équipe des grandes gueules en régie, Anne-Laure de Rivière, a trouvé la photo de Grégory Bovino. Voilà, c'est lui, Grégory Bovino. C'est lui qui est à la tête de ICE, que l'on voit régulièrement se mettre en scène, soit avec sa redingote, soit avec des saluts qui sont très martiaux dans la manière dont il se comporte.
Il y a combien de citoyens américains, blancs, noirs, hispaniques, asiatiques, combien même de migrants légaux, hispaniques par exemple, qui ont été agressés, qui ont été violés, qui ont été tués par des gangs de Nicaraguayens, de Salvadoriens, de Vénézuéliens, de Haïtiens. C'est ça, il y en a beaucoup plus, c'est le nœud du problème, il est là. S'il n'y avait pas ces problèmes de gangs, s'il n'y avait pas des gangs vénézuéliens aux États-Unis, déjà peut-être que Trump n'aurait pas été élu.
C'est pas des gangs là.
Le problème central, il est là.
Si tu veux lutter efficacement contre un phénomène de violence, tu peux pas comporter de la même façon parce que d'ailleurs Trump va être obligé de reculer. Moi, ça m'étonnerait pas que cet homme qui est derrière Alain Marshall soit mis de côté pour calmer la colère. Oui. Tu veux, en fait, ça va à l'encontre de ce que veut faire Trump, ce qui s'est passé. Il va être obligé sans doute.
Non, mais ça, on est d'accord. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Mais n'occulte pas le fond du débat, qui est la violence de gangs d'immigrés clandestins aux États-Unis.
C'est pas le fond du débat, c'est pas vrai. Je pense qu'on peut très bien lutter contre ça sans faire peur à toute sa population. Et il m'a parlé une différence fondamentale, moi, que je vois dans l'attitude de Trump, dans la politique de Trump, c'est-à-dire que, par exemple, tu parlais de Barack Obama et Bill Clinton, une fois qu'ils sont élus, et Barack Obama s'est justifié et affirmé le fait qu'il devait expulser des
oui, il a expulsé des Mexicains à tour de bras.
Tout à fait.
Des familles, des enfants.
Mais il m'apparaît que, quelque part, son adversaire ou son ennemi, en tout cas, ce contre quoi il lutte, ce sont les clandestins. Trump, j'ai l'impression qu'il lutte et contre les clandestins et contre la gauche. C'est-à-dire que il y a une sorte de d'amalgame entre le clandestin et la gauche, le citoyen de gauche qui serait contre sa politique. En gros, il est justifié de tuer parce que lui aussi serait un ennemi, une sorte d'ennemi de l'intérieur. Donc moi, je trouve que ça va un peu loin parce que j'ai l'impression que les autres présidents, même Bush, républicains, on avait l'impression que c'était les présidents de tout le monde, de tous les Américains. Là, j'ai quand même l'impression que Trump a décidé que le citoyen de gauche est aussi un ennemi de l'État. Voilà.
Merci à Fred d'avoir participé à nos discussions. Et c'est vrai que c'est la personnalité aussi de ICE et de son chef, Grégory Bovino, qui est entièrement dévoué à Trump, qui aujourd'hui est mise en avant aussi largement dans le débat aux États-Unis. Alors, on a posé la question... le manifestant tué à Minneapolis, est-ce que pour vous c'est un tournant pour Donald Trump aux États-Unis? Vous dites non à 61%. Dans un instant, suite des GG, parce que aujourd'hui, pour le monde entier, le premier opposant à Donald Trump, c'est qui? C'est Emmanuel Macron. Et il y a un petit rebond dans les sondages pour Emmanuel Macron. Alors, est-ce que Emmanuel Macron, premier opposant de Trump, c'est un rebond qui peut durer. Est-ce qu'on dit merci Donald Trump? Il doit continuer de jouer ce rôle-là. 32-16 pour venir en discuter avec les GG, il est 9h20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story avec Joël Dagosséry, avec Jean-Loup Bonamy, avec Charles Consigny. On va parler du rebond de popularité pour le président de la République, Emmanuel Macron.
Which sometimes is too slow, for sure. And needs to be reformed, for sure.
Il est de retour, il est de retour.
Which sometimes is too slow, for sure. And needs to be reformed, for sure. Which sometimes is too slow, for sure. And needs to be reformed, for sure. That the rule of the game is just the rule of law, for sure. For sure. For sure. Which sometimes is too slow, for sure.
Si vous allez sur les réseaux sociaux, c'est un remix à partir des interventions du président de la République en anglais avec le fameux for sure qui maintenant est devenu une rengaine qui fait florès sur les réseaux sociaux. Mais ça, on pouvait vous l'écrire, hein. c'était évident que depuis sa sortie contre Donald Trump, le président de la République allait avoir un petit rebond dans les sondages. CQFD, on l'a vu durant le week-end.
Emmanuel Macron, oui, qui surfe sur l'anti-Trumpisme avec un sondage publié par nos confrères de l'opinion IFOP. Il repasse la barre des 20%, plus 2% de popularité. Et surtout, il retrouve son socle de partisans. 88% des soutiens chez Renaissance, donc les macronistes pur jus, retombent amoureux de leur chef, en quelque sorte. Et alors, c'est amusant, c'est que ça ne touche pas qu'Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous avez vu ce week-end, mais tous les anciens, ça y est, se mettent à y croire en se disant, face à Trump dans un an, c'est peut-être Trump qui va faire l'élection présidentielle française. Il faudra des gens expérimentés. François Hollande, lui-même, dans Le Parisien ce matin, qui nous explique qu'il reçoit plein de coups de fil, on l'a jamais autant appelé, parce que son expertise est attendue. Vous entendez aussi Dominique de Villepin qui fait tous les plateaux, Michel Barnier y croit aussi, Thierry Breton, je suis sûr qu'il y pense en se rasant. Bref, tous les anciens se disent, il y a un coup à jouer, ça sera pas le jeune Bardella, ça sera pas les inexpérimentés, il faut quelqu'un qui a de la bouteille.
Alors, qu'est-ce que tu redis, Joël?
C'est sûr que quand tu as écouté Bardella juste après, tu sens quand même une sorte de vide intersidéral. Tu dis, ah oui, c'est... Il y a quand même une différence.
Joël aussi.
Non, ça ne veut pas dire ça. C'est juste que ça a mis en évidence, comme je dis souvent, le vent, l'air et l'oxygène qui passe à travers les élus du RN, pas tous.
La semaine dernière, tu nous as dit que tu étais ravi.
Je m'étais ravi avec
Emmanuel Macron, mais pas encore bouché.
Non, pas encore, parce que la politique.
Tu es rabibo au moins ou pas?
Non, pas du tout, parce que j'ai été de celles justement qui regardaient l'international pour voter beaucoup, en me disant face à la Chine, face à Poutine, face aux États-Unis. Il nous faut quelqu'un. Et je pense que oui, toujours. Mais néanmoins, je crois que c'est vraiment si un pays est fort intérieurement quand même, s'il est les puissants, notamment économiquement, et même aussi bien sur ses deux appuis pour les valeurs, qu'il va pouvoir réellement concurrencer d'autres pays. Donc, je comprends le regain de popularité du président Macron. Je crois qu'effectivement, ce qu'il a fait est très bien. Je continue de le dire. Je soutiens parfaitement ce qu'il a fait. Et je j'ai pas peur de dire ça. Par contre, l'élection présidentielle doit se jouer aussi sur un pied national. Voilà. Moi, je veux quelqu'un qui est en capacité de redresser la France, parce qu'on va pas pouvoir tenir avec des bouts de chandelle. Et le vrai opposant à Trump aujourd'hui, c'est pas Emmanuel Macron, c'est la Chine. Et d'ailleurs, tout ce que fait Trump, c'est en direction de la Chine. Il vise à comment se positionner contre la Chine. Le Groenland, c'est la Chine. Donc, pour moi, Macron, le premier opposant à Donald Trump.
Sur Macron,
il remonte dans les parler de Macron, mais excuse-moi, mais là, il faut quand même que je fasse une très légère parenthèse. Donc, en fait, je résume là tout ce qui vient d'être dit. C'est que Trump qui fait expulser des clandestins vénézuéliens, oh là là, c'est très grave, mais la Chine qui génocide des Ouïghours et qu'enferme des dizaines de milliers de Ouïghours dans des camps de travail forcé, qui stérilise les femmes de force, qui dynamite des mosquées dans le Xinjiang. Alors là, c'est OK, c'est pas du tout un problème. Le méchant, c'est Trump dans l'affaire. Bon, OK.
Et que les États-Unis sont sortis
plus d'investissements chinois en Europe, comme l'a dit Emmanuel Macron, qui a appelé la Chine à faire plus d'investissements en Europe. Ok, les Ouïghours apprécieront dans leur camp de travail en fabriquant les jouets pour vos enfants. Donc, des enfants, ils n'en auront plus puisqu'ils ont été stérilisés de force par le gouvernement chinois.
Restons là, on part sur autre chose, c'est hors sujet.
Oui, et donc, je reviens. Moi, ce qui m'a quand même un peu surpris dans l'intervention d'Emmanuel Macron, indépendamment du fond, c'est la langue dans laquelle elle a eu lieu, puisqu'elle a eu lieu en anglais. L'anglais, c'est la langue de deux pays, le Royaume-Uni et les États-Unis. Le Royaume-Uni a claqué la porte de l'Union européenne il y a bientôt 10 ans avec le Brexit. Bon. Et les États-Unis, c'est justement le pays de Donald Trump. Si Emmanuel Macron fait son allocution en anglais, c'est parce que les États-Unis sont la première puissance politique, militaire et économique. Donc faire ton intervention en anglais et non pas en français, c'est déjà te soumettre aux États-Unis et c'est déjà reconnaître la prééminence culturelle et linguistique avec derrière tout l'appareil militaire et économique. C'est pour ça qu'on parle anglais.
Macron, ça peut tenir? Est-ce qu'il va finir son quinquennat finalement beaucoup mieux qu'il l'a, c'est mieux qu'il a commencé, non, puisqu'il a été réélu, mais en tout cas, est-ce qu'il a retrouvé un second souffle et que ça va durer et que les gens vont se rendre compte
qu'il est passé mal, un rebond tout à fait temporaire lié à des événements conjoncturels qui ont eu lieu il y a 3 jours, et donc c'est quelque chose de très courte de durée, de provisoire et de temporaire, et quand on va être rattrapé par les problèmes intérieurs, notamment par les problèmes budgétaires, économiques économique et de sécurité, eh ben ça va retomber encore plus bas dans sa cote de popularité.
Donc c'est le soufflé, quoi.
Bah oui. Mais
moi je pense que Macron c'est communicator. On avait Terminator, on a communicator. Je pense que les lunettes c'est très étudié. Et même, je pense qu'il exagère son accent français. Je veux dire, même moi qui ne fais pas beaucoup d'efforts quand je parle anglais, je pense que je m'adapte un tout petit peu mieux à l'accent nécessaire. Enfin, lui, il surjoue son accent français. On est quand même un peu dans le coup de com. Après, je pense qu'il a dit ce qu'il fallait dire et que au fond. Là où il est content, c'est qu'il retrouve son adversaire préféré, c'est-à-dire la bête immonde, l'extrême droite, etc. Et ça, c'est en réalité, je pense que Trump n'est pas un adversaire difficile, contrairement à ce qu'on prétend, puisque Trump est détesté de la presse du monde entier, des élites du monde entier, sauf rares exceptions. C'est un homme qui est apprécié du peuple, mais qui n'est pas aimé sinon en dehors de ça. Et là, je vois bien tous les progressistes mous depuis leur télétravail qui se mettent à publier des stories Instagram contre Trump et pour les valeurs de l'Europe, etc. Faut pas se laisser, je pense, trop emmener là-dedans.
Mais tu vois bien qu'il y a une tentation ici même en France, notamment par la gauche et le centre, d'utiliser Trump
bien
comme
sûr.
Un effet repoussoir.
Ah bah bien
l'épouvantail. Puisque Marine Le Pen et Bardella n'ont plus vraiment le même effet repoussoir qu'un Jean-Marie Le Pen, le nouveau effet repoussoir c'est Trump, en expliquant que derrière Trump, il y a quand même le Rassemblement National, Éric Zemmour, etc. Voilà, et que la meilleure façon de nous en protéger, c'est de prendre quelqu'un de gauche ou du centre et un peu expérimenter.
Ils refont le coup des nazis.
Oui,
je veux dire, Macron a gagné deux fois comme ça. Il faut se souvenir, que entre les deux tours de la présidentielle de 2017, il se rend au mémorial de la Shoah avec force mise en scène. D'ailleurs, on dirait quasiment qu'il découvre ce qui s'est passé. C'est des images assez troublantes. Et qu'est-ce qui veut dire que c'est soit lui, soit les nazis, et que Marine Le Pen c'est une nazie. C'est ça qui veut dire entre les deux tours.
C'est pour ça que tu vas voir que ça va être ce qui se passe aux États-Unis à Minneapolis avec la police de l'immigration, ça va être instrumentalisé en
ça
disant.
Déjà.
Mais ça va être
en
politique intérieure française. S'ils arrivent au pouvoir, vous aurez ICE, vous aurez la police de l'immigration.
Trump, il sera là dans un an. Il sera encore au pouvoir dans un an.
Sûr. Je trouve que ça n'est pas digne et qu'en tout cas notre responsabilité. De défricher tout ça, c'est de démasquer ça. C'est-à-dire, je vois
la ficelle.
Cette espèce de centre mou qui veut à tout prix s'accrocher au pouvoir, parce que c'est ça la réalité. C'est pas nous protéger la France de la police trumpienne. Faut arrêter les conneries. C'est de se maintenir au pouvoir. C'est de conserver les postes dans les ministères, dans la haute administration, dans tout ce qui dépend de la nomination publique.
Il y a des responsables de Renaissance qui te disent aujourd'hui, quand tu les rencontres, c'est dommage, ça arrive trop tôt. On serait à 3 semaines de la présidentielle. Il y aurait peut-être un effet Trump sur la présidentielle. Un an avant, on ne sait pas dans quel.
Moi, on voit bien, si vous voulez, ça sent le renfermer en ce moment en France, je trouve. Le monde politique sent le renfermer.
Mais parce qu'on a les mêmes.
Tout cet entre-soi, toute cette petite fausse élite qui elle-même paraît revenue de tout, qui est au pouvoir depuis trop longtemps. Il faut ouvrir la fenêtre de notre vie politique et de notre vie publique. Moi, je pense qu'il faut une alternance.
Joël.
À mon avis, il faut pas continuer avec les mêmes. Il faut changer d'équipe. Ça fait trop longtemps qu'ils sont aux manettes.
Joël Lagosserie.
Non, sur l'aspect communication, moi, je crache pas sur la communication. C'est important, la communication, pour marquer les esprits. Et ce qu'a fait Emmanuel Macron, il a marqué les esprits. Tout y était. C'est vrai, il y avait des ingrédients qu'on peut qualifier de superficiels, mais qui... ça marque les esprits, l'accent très français ça marque les esprits, mais le discours aussi et la posture qu'il a adoptée en ne cédant pas à Trump, ça marque les esprits. Donc je crois dans ce sens-là que c'est quelque chose, c'est compréhensible que ça remonte un peu en flèche. Et je crois que ça va au-delà du positionnement anti-Trump, ça va aussi un peu rassembler et fédérer l'Europe qui était quand même pas mal divisée. Donc Et donc ça a servi aussi à ça. Donc il faut lui reconnaître ça, oui, quand même.
Oui, mais reconnaît que derrière il y a toute une sur France Info TV, ils appellent ça la police anti-immigration américaine Gestapo. C'est ce que dit Charles, c'est-à-dire qu'on est en train de nazifier le truc, et les nazis sont aux États-Unis, mais les nazis sont en porte du pouvoir en France. On voit bien quand même, ça va être une stratégie de communication.
Je vais faire plusieurs remarques.
Oui, oui. Non, vas-y.
T'as fini?
Vas-y.
Je ne vais pas te couper. Alors, la première chose, c'est. Là, je vois la comparaison avec la Gestapo. Je rappelle que la Gestapo arrêtait des gens pour les envoyer dans des camps de concentration et les y tuer. Là, la police américaine arrête des gens pour les renvoyer dans leur pays, tout simplement. C'est la première différence. La deuxième différence, Joël dit quelque chose qu'on lit en effet beaucoup et sous des plumes très sérieuses. Elle dit que ça va peut-être fédérer l'Europe. Et le problème, c'est que Giorgia Meloni, qui est à la tête de la troisième puissance économique de l'Union européenne, l'Italie, vient de dire qu'elle souhaitait que Donald Trump reçoive le prix Nobel. Elle est à fond pro-Trump.
Elle vient de se positionner contre Trump.
Elle est pro-Trump, elle a salué la capture de Maduro, elle dit qu'elle veut qu'il ait le prix Nobel de la paix.
Comme il a osé remettre en cause l'intervention de l'OTAN en Afghanistan, donc elle vient justement de prendre la parole pour dire que ça suffit et que les Italiens avaient perdu énormément de soldats et que non, l'Europe n'avait pas été...
renoncer à sa ligne globalement pro-Trump.
Les Allemands ne sont pas comme vous aussi vindicatifs.
Oui, c'est parce qu'ils veulent vendre leurs voitures aux États-Unis. Enfin, le troisième point, moi j'ai regardé ce qui s'est passé à Davos. Alors il y a eu l'intervention très haut en couleur de Trump, mais après Trump, il y a quelqu'un qui est venu qui était son secrétaire d'État au commerce, le secrétaire d'État au commerce américain, qui d'ailleurs est juif, donc on peut toujours traiter la police américaine de Gestapo, mais il est venu. Il a fait un discours beaucoup plus calme, qui m'a paru très argumenté, qui m'a paru très rationnel. Il a dit, écoutez, la mondialisation c'est fini, nous on a voulu la mondialisation, en fait ça s'est retourné contre vous, contre nous les Occidentaux, on s'est fait avoir. Et en fait, vous êtes complètement fous de faire fabriquer des produits stratégiques à l'autre bout du monde, par exemple en Chine. Vous êtes fous, vous les Européens, de faire fabriquer les batteries de vos futurs automobiles électriques ou vos composants électroniques, de faire fabriquer ça en Chine. Nous, on veut relocaliser ça aux États-Unis. La mondialisation est morte. Écoute, moi, il me paraît que c'est un discours de bon sens du point de vue de la sécurité stratégique des pays. Et Macron, c'est celui qui vient à contre-temps, avec 10 ans de retard, tenir le discours de la mondialisation heureuse. Et
non,
dire,
il parle de la souveraineté aussi européenne. Non, mais
qui trouve que, globalement, le fait qu'on fasse fabriquer nos composants électroniques à l'autre bout du monde, c'est pas un problème.
Les chinois, donc, tu vois.
De quoi? Oui, il appelle aussi les Chinois.
Serge Papin veut casser la gueule des Chinois, il l'a dit. Texto, oui,
mais
comme c'est ça,
pas Macron. Mais en plus, il faut voir quand même que...
Vas-y, finis.
Non, il faut voir quand même que si on est aujourd'hui aussi faible par rapport aux Américains et aux Chinois, c'est ni à cause des néo-nazis, ni que sais-je. Non. C'est parce qu'on a globalement, on s'est démobilisé. On travaille plus, on veut plus travailler, on veut la semaine de 3 jours, on veut la retraite à 50 ans. Enfin, et on s'étonne tout à coup d'être dominé par les Américains et les Chinois. C'est quand même exceptionnel. Je pense que Trump aura une vertu que je pointe depuis le début, c'est qu'il nous secoue.
Il nous remobilise.
Il nous donne un petit coup d'électrochoc.
Rebond d'Emmanuel Macron dans les sondages, est-ce qu'on peut dire merci Donald Trump? C'est la question qu'on a posée sur les réseaux sociaux. Vous dites oui 46, non 53, 46.5, 53.5. Dans un instant, le on s'en fout, on s'en fout pas, et à 10h, interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Faisable ou infaisable? Restez avec les GG en direct sur RMC, il est 10h-20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, Charles Consigny, Jean-Loup Bonamy et Joël Dagosséry. Voilà nos trois grandes gueules avec vous. N'oubliez pas les vacances. On a des vacances club et hôtel Bel Embrun, un séjour d'une valeur de 2000 euros en famille. C'est un séjour tout compris premium. Il suffit d'envoyer vacances par SMS au 732-16. Vacances par SMS au 732-16. 45 destinations à choisir dans le catalogue Bel Embrun. Le club s'occupera des enfants, des activités, des repas. Je vous dis, c'est du all-inclusive premium. Vous envoyez vacances par SMS au 732-16. Tirage au sort du gagnant tout à l'heure à 11h20.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas. Bonjour Anaïs Inès Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Près d'une agence immobilière sur deux accepte ou facilite une discrimination raciale dans l'accès au logement, les GG. C'est ce que révèle un testing mené en 2025 par SOS Racisme. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Joël?
On s'en fout pas.
Charles.
On ne s'en fout pas.
Jean-Loup.
On ne s'en fout pas.
L'association s'est faite passer pour des propriétaires auprès de 198 agences immobilières, demandant expressément des profils européens pour éviter des problèmes de voisinage rencontrés par le passé. Et bien, résultat, 96 agences, soit 49%, ont accepté de discriminer en sélectionnant elles-mêmes les locataires sur la base d'un critère racial. Et dans les conversations téléphoniques enregistrées par SOS Racisme, certains agents immobiliers admettent pourtant savoir que c'est illégal. Joël, pourquoi tu t'en fous pas ?
Je veux dire, quand on parle de ce problème, on va te dire que tu te victimises. C'est pas le premier testing. C'est pas le premier testing qui soit en boîte de nuit, en logement, en emploi. C'est bizarre, on arrive toujours à trouver des gens qui sont OK pour discriminer d'autres personnes. Donc il faut pas s'étonner après quand certaines minorités vous expliquent que oui, c'est compliqué pour entrer, pour avoir accès au marché du travail ou pour avoir accès à des logements. Voilà, les tests sont là pour prouver. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ?
Alors la réponse, il faut du gouvernement. Madame Berger, Aurore Berger, qui est en charge des discriminations au sein du gouvernement, la lutte contre la discrimination, a dit il faut une formation des agents immobiliers, une formation obligatoire.
Mais ils le disent, ils savent que c'est illégal.
Au moins, ça fera du business.
Jean-Loup. Non mais alors moi je ne m'en fous pas du tout et je condamne avec la plus grande fermeté ces discriminations, d'autant plus que j'ai eu l'occasion récemment de discuter avec un très sympathique auditeur des GG qui était lui-même propriétaire de plusieurs biens immobiliers, qu'il les louait et qu'il assumait totalement la discrimination, de discriminer, en sachant que lui-même est algérien en fait. Mais il m'a dit, j'ai eu des problèmes, j'ai loué à des gens d'ailleurs que je connaissais de ma communauté, ça s'est terminé en menace de mort. Donc moi-même qui suis algérien, arabe et musulman, je discrimine. Alors moi je condamne évidemment ces propos et ces pratiques, mais en fait il ne faut pas s'imaginer que les gens qui discriminent sont forcément des blancs néo-nazis. Voilà, précise ça.
Non, Charles mais... je pense que on peut pas l'accepter. Après, que vous soyez catholique, musulman, noir ou blanc, louer un appartement en ce moment, c'est extrêmement compliqué, discrimination ou pas, c'est la croix et la bannière quand même pour tout le monde. Après, c'est pas acceptable, mais la réponse de Madame Berger qui consiste à nous créer une énième formation bidon qui va juste enrichir des escrocs, parce qu'on sait le niveau d'escroquerie qu'il y a dans le domaine de la formation professionnelle, avec des fausses formations qui sont facturées, remboursées par l'État, etc., etc. C'est nullissime. Honnêtement, c'est pas la bonne réponse.
Les GG, mauvaise nouvelle, dans quelques jours, vous allez recevoir votre fiche de paye, mais attention, ne soyez pas surpris, car votre salaire net risque de baisser en ce mois de janvier. On s'en fout ou pas, Joël ?
On s'en fout pas.
Jean-Loup ?
On s'en fout pas.
Charles ?
On s'en fout pas.
Inutile d'en faire le reproche à votre employeur, il n'y est pour rien en cause. Plusieurs hausses entrées en vigueur depuis le 1er janvier, notamment celle des cotisations de mutuelles, du prélèvement à la source et des abonnements de transport, et qui pèsent directement sur le montant perçu sur votre compte bancaire à la fin du mois. Près de 32 millions de salariés et de fonctionnaires seraient concernés. Joël.
Je rappelle que le Navigo passe à 90 euros, il me semble. Lorsqu'on a commencé ce Navigo, il était à 75, si je me souviens bien. Donc effectivement, ça fait des hausses continuelles. Alors ça peut s'expliquer, hein, mais à la fin sur la facture, le salaire, bah tu le ressens. Et quand le gouvernement,
parce qu'il y a une prise en charge des entreprises, une partie des transports.
Oui, tout à fait, exactement. Donc quand on te dit il y aura pas de hausse des impôts, etc. Il faut toujours se dire que ça cache quelque chose. C'est bizarre quand on
annonce. En général, c'est toujours faux.
Oui, mais c'est bizarre quand même qu'on t'annonce qu'il y a pas de hausse des impôts et que derrière tu ressentes le contraire. Je veux dire, c'est magique. Il faudrait expertiser cette politique.
Charles.
Je ne suis pas très surpris. Moi, je pense que, en réalité, en France, le salaire net des Français, il est égal à zéro. C'est même pas qu'on vous laisse 40% de votre salaire, ce qui déjà est extravagant. C'est qu'en réalité, une fois que vous avez tout payé, il vous reste rien en France par rapport à d'autres pays. Parce que vous avez les charges, les cotisations sociales, les cotisations patronales, les taxes diverses. On a derrière toi, Anaïs, un détail d'une fiche de paye. Le nombre de lignes est ahurissant. L'impôt sur le revenu, la taxe foncière, la cotisation foncière des entreprises, même quand vous n'avez pas de locaux professionnels. C'est un empilement de trucs ahurissants. Donc en fait, le net,
pour moi, il est quasi égal à zéro. On vit dans un système soviétique, faut pas se mentir. Ce que la gauche d'ailleurs appelle le salaire différé.
C'est ça.
Parce que le salaire différé, c'est l'hôpital où on est soigné dans les mêmes conditions qu'en Moldavie. C'est l'école où les gosses n'apprennent rien quand ils se font pas planter par leurs camarades. C'est le RER qui était toujours en grève ou qui a un problème technique ou dans lequel vous vous faites planter par quelqu'un qui est là en train de errer parce que la police ne gère pas, c'est ça le salaire différé. Donc voilà, moi je pense qu'on vit en Union soviétique.
Jean-Loup, tu vas être concerné toi.
Alors, bah oui, je suis concerné. Donc non, mais la France est un sketch. D'autant plus que, Olivier, ça t'a fait rire, je t'avais envoyé une vidéo la semaine dernière dans laquelle on voit un Japonais qui donne des cours de français. Et il explique que quand tu rajoutes le suffixe net en français, ça introduit une nuance de petit. Camion, camionnette, un petit camion. Maison, maisonnette, une petite maison. Bah revenu, revenu net, un tout petit revenu. Tu rajoutes net, c'est un tout petit revenu. En fait, on nous explique, au GG, ça fait un an qu'on dit qu'il y a trop d'écart entre le net et le brut, qu'il n'y a pas assez de pouvoir d'achat des Français,
20 ans,
le travail ne paye plus.
Les politiques le disent. Bon,
c'est pour ça que les Français ne veulent plus travailler, que le travail n'attire plus, voilà. Et donc que le revenu net, que les salaires nets sont trop bas. Et donc non seulement on n'augmente pas le salaire net, mais en plus on le baisse encore. Alors qu'on pensait qu'on pouvait pas plus le baisser. La France est un sketch.
Les jeux, j'ai un anniversaire aujourd'hui, celui de Michel Sardou, 79 ans, ce lundi 26 janvier. Évidemment, on s'en fout pas, peut-être vous en foutez.
Non, Joël. On s'en fout pas.
Charles.
Ah non, on s'en fout pas.
Jean-Loup.
Je préfère Renaud et Jean Ferrat parce que j'aime les chanteurs de gauche, Sardou, plus que les chanteurs de droite.
C'est 60 ans de carrière, trop.
Et
j'assume.
Joël, on s'en fout pas.
Je m'en fous pas. 368 tubes et 95 millions de disques vendus. Charles, pourquoi tu
t'en fous pas ? Non, moi je pense que c'est un immense chanteur et c'est en plus une personnalité que je trouve extrêmement sympathique. Je suis pour Sardou président. Il fait l'éloge du temps qu'on mettait à descendre à Marseille en bagnole pendant 3 heures parce qu'on roulait à 180 et que ça n'emmerdait personne. Moi je me reconnais dans cette France-là. Quand il fait l'éloge de la liberté de picoler, cloper, qu'on nous emmerde pas avec toutes les conneries contemporaines, je m'y reconnais à fond. Donc le Sardou en lunettes noires, qui a été précurseur de Macron de ce point de vue-là, qui débecte la niaiserie de notre époque et qui regrette la France heureuse, je vote pour lui à 1000%.
Joël. Non, moi je fais un appel à mes
Sardou,
voisins.
T'écoutes du Sardou,
je fais un appel à mes voisins parce que j'écoute du Sardou de manière forcée, puisqu'il n'y a pas une fête et une soirée qui finit pas par les lacs du Connemara. Donc je commence à en avoir assez. Il s'agirait de changer un peu.
Pourquoi t'es pas invité à la fête de ton voisin?
De changer de disque. Je sais pas.
T'es pas invité.
En fait, c'est les voisins de l'immeuble d'en face.
Ah oui, c'est un peu.
Voilà. Ah oui, donc ils mettent la gomme.
Donc les lacs du Connemara, je commence à en avoir assez. Donc voilà, joyeux anniversaire à Michel Sardou, mais voilà, les Français changeaient un peu de
disque.
Ouais.
Bon anniversaire.
Oui, bon anniversaire, Michel Sardou.
De gauche, Jean-Louis.
Non, mais moi j'aime bien Michel Sardou, et c'est une personnalité importante, un très grand chanteur. Oui, c'est un bon anniversaire. À titre personnel, ça m'arrive d'en écouter, mais je préfère écouter par exemple du rap. J'aime beaucoup NTM ou des chanteurs de gauche comme Renaud ou Jean Ferrat, et ce n'est pas une blague.
Mais qu'est-ce que t'écoutes de Sardou? Tu aimes bien?
J'aime bien sa chanson Rouge, par exemple. Rouge, c'est très bien. J'aime bien sa chanson sur Lénine aussi. Mm-hmm. Les lacs du Connemara.
Il faut, là, en ce moment, ce qu'il faut réécouter, c'est si les Ricains n'étaient pas là. Comme ça, c'est lié à Donald Trump. Dans un instant, la deuxième heure des GG, interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Est-ce que c'est faisable? Glucksmann ou Mélenchon, qui peut faire gagner la gauche en 2027? Et puis une amende de 500 euros pour les consommateurs de drogue. C'est Laurent Nunez qui le confirme aujourd'hui dans les colonnes du Parisien, le ministre de l'Intérieur. Est-ce que c'est dissuasif? Vous intervenez avec nous au 32-16, il est 10h05.
Terre brûlée au vent des landes de pierre.
RMC, 9h, midi, les grandes gueules.